une indexation à 5,8 ne dégrèvera jamais nos stock options.
On peut pas juguler les réajustements périodiques du cash flow.
Attendez, j'y comprends plus rien là, c'est trop rapide pour moi, j'ai mal à la tête.
Faut être un petit peu plus clair.
Les OPA de la BE ne stoppent pas les PCI à 0,16 TTC proposés par le CMD à la SRJC. Je dis foncez, il n'y a aucun risque.
Bienvenue dans Splash, le podcast qui jette un pavé dans la mare de l'économie. Je suis Emmanuel Martin, professeur d'économie en prépa à Rouen, et tous les lundis, je décortique avec vous un sujet d'économie. Aujourd'hui, on va parler de Muriel Pénicaud, d'ACEDIC et de discipline. La semaine dernière, on vous parlait du CDI. Aujourd'hui, nous vous emmenons à l'autre bout du spectre, du côté des chômeurs et des chômeuses et de la façon dont on contrôle le chômage. Car comme la suppression du CDI, le renforcement du contrôle des demandeurs d'emploi est devenu un thème favori dans les débats politiques. Ce qui n'a pas empêché depuis deux décennies les gouvernements successifs d'en faire un cheval de bataille, et ça, peu importe les résultats. Faut-il encore plus contrôler les chômeurs et les chômeuses ? Il y a aujourd'hui en France 5 817 200 chômeurs et chômeuses inscrits à Pôle emploi. Parmi elles et eux, on compte des personnes sans emploi et des personnes qui exercent une activité réduite. C'est-à-dire des personnes qui exercent une activité rémunérée tout en étant inscrits à Pôle emploi, par exemple, des petits boulots, des missions d'intérim, des vacations, etc. Mais d'abord, c'est quoi être chômeur ? Selon la définition du Bureau international du travail, qui fait autorité sur ce point, pour être considéré en tant que chômeur ou chômeuse, il faut remplir trois conditions. Être sans emploi, ne pas avoir travaillé au moins une heure durant une semaine de référence, être disponible pour prendre un emploi dans les 15 jours, et avoir cherché activement un emploi dans le mois précédent, ou en avoir trouvé un qui commence dans moins de 3 mois. Pôle emploi possède trois façons de vérifier si ces conditions sont remplies. Par une requête ciblée, d'une manière aléatoire, ou à la suite d'un signalement. Le contrôle, il existe déjà. Il semblerait cependant que pour certains, celui-ci ne soit pas assez fort et ou pas assez sévère.
Les demandeurs d'emploi qui ne démontreront pas une recherche active verront leurs allocations suspendues.
La France a préféré augmenter son chômage et son assistanat.
Le chômage n'a cessé d'exploser en France.
Et de l'autre côté, vous laissez exploser l'assistanat.
Je ne céderai rien, ni aux fainéants, ni aux cyniques.
Mais d'où vient cette suspicion que les chômeurs ne sont pas activement à la recherche d'un emploi ? Pourquoi voit-on le chômage et les personnes qui le subissent d'un mauvais œil ? J'en ai parlé avec Jean-Marie Pillon et Adrien Clouet, maître de conférence en sociologie, et je leur ai demandé d'où vient cette idée de contrôler les chômeurs.
C'est une question qui est aussi vieille que la charité, c'est-à-dire que depuis la sécularisation de l'aide aux pauvres, il y a toujours eu cette idée selon laquelle il fallait distinguer ceux qui sont en mesure de travailler de ceux qui ne le peuvent pas. Et donc, il y avait une tendance à ne pas vouloir aider ceux qui pourraient trouver par leurs propres moyens des façons de subvenir à leurs besoins. Donc, c'est la raison pour laquelle, quand on voit dans les statuts des syndicats qui apportaient des aides aux chômeurs au 19e ou au tournant du siècle, on voit bien que même quand il s'agissait d'une forme d'aide et de secours dans un cadre associatif, il y avait déjà cette volonté de dire on ne va pas aider ceux qui pourraient travailler par ailleurs. On n'est pas là pour aider ceux qui pourraient pas travailler. Ceux qui pourraient travailler, il faut aider uniquement ceux qui sont en grande difficulté.
Il ne faudrait surtout pas que les chômeurs touchent trop d'argent et se dorent la pilule au soleil pendant que les travailleurs s'acharnent au boulot. Cette distinction entre bons pauvres méritants et mauvais pauvres feignants, on la trouve enracinée dans les pratiques des bureaux de bienfaisance et des institutions de charité, qui ont au départ une origine religieuse. Et pour être sûr que les chômeurs ne se tournent pas les pouces, les gouvernements français successifs ont renforcé le contrôle depuis les années 2000.
Il y a eu une série effectivement de renforcement des obligations faites aux chômeurs qui n'est pas qu'une logique uniquement française. On a assisté à une inflexion européenne dans cette direction, qui s'accompagnait en même temps d'une dérégulation du marché de l'emploi. C'est-à-dire il y a de plus en plus de contrats qu'on appelle précaires, des contrats courts, des contrats à temps partiel, etc. Donc on a deux mécanismes assez parallèles à ce titre et donc on a vu un renforcement à la fois des offres d'emploi que les chômeurs sont censés accepter.
Au début du mois d'octobre dernier, la réforme de l'assurance chômage est entrée en vigueur. L'indemnisation est dorénavant fondée sur la moyenne des salaires et rémunérations reçues durant une période de référence donnée. Il faudra avoir travaillé 6 mois sur une période de 24 mois et non plus 4 mois sur 28. Cela veut dire que pour les demandeurs d'emploi qui ont eu des interruptions d'activité, par exemple entre deux périodes d'intérim, l'indemnisation sera plus faible. L'objectif ? Inciter ceux qui peuvent travailler davantage à le faire, tout en accompagnant plus longtemps ceux qui ont plus de difficultés à retrouver un emploi. Quelles en sont les conséquences pour les demandeurs d'emploi? Les deux sociologues m'ont cité les travaux de leurs collègues.
Alors, on doit ici citer les travaux de Claire Vivès, notamment, qui est l'experte de ces questions-là, qui a notamment la grande qualité de son travail, ça a été d'effectuer des simulations. Et en fait, ce que montrent les simulations effectuées sont sans appel. C'est-à-dire qu'il y a des individus qui, en très grand nombre, vont perdre énormément d'argent. Et notamment, quand vous parlez d'éligibilité, et tout à l'heure, on parlait de est-ce qu'on est tous égaux, etc. Ce sont les personnes qui sont déjà les plus précarisées sur le marché du travail, donc notamment les gens qui enchaînent des contrats courts, qui vont se retrouver dans des positions les plus dégradées par cette réforme. Et c'est clair que de ce point de vue-là, les mois à venir sont déterminants et vont avoir des conséquences qui sont désastreuses, en fait. Enfin, on sait déjà que la crise économique a très largement appauvri des pans entiers de la population. Et là, on va avoir la seconde couche, c'est-à-dire qu'on va avoir des gens qui, en plus, vont perdre le filet de sécurité qu'est l'assurance chômage.
Mais on pourrait se demander pourquoi on ne considère pas l'assurance chômage comme un droit définitif, non négociable, comme l'assurance maladie, par exemple. Adrien Clouet file la métaphore.
Lorsque vous avez un rhume, en général, on ne va pas vérifier comment vous l'avez attrapé pour vous rembourser vos médicaments. On considère que vous avez cotisé et donc vous êtes malade et donc on vous rembourse. L'assurance chômage, en revanche, on vous remboursera votre privation d'emploi qu'à condition que vous fassiez les bonnes choses pour retrouver un autre emploi. Alors que, bon, on pourrait très bien se dire, les gens qui ont le rhume, s'ils ne se lavent pas les mains deux fois par jour, ben, on leur coupe les fonds. Bon, c'est pas ce qui se fait. Donc, il y a une assurance, un peu une logique assurantielle spécifique sur la question du chômage et qui est évidemment une dimension économique.
D'ailleurs, il faut bien préciser ici qu'il faut avoir travaillé pour ouvrir des droits au chômage. Car l'assurance chômage n'est pas une aide sociale. C'est, comme le rappelle l'UNEDIC, une assurance obligatoire à laquelle cotisent tous les employeurs du privé ainsi que certains du public pour protéger leurs salariés lorsqu'ils perdent leur emploi. C'est une branche de la sécurité sociale, comme l'assurance maladie ou l'assurance vieillesse. Lorsque ces institutions ont été créées, au milieu du XXe siècle, voire bien avant pour d'autres pays européens, l'idée était de protéger les travailleurs et leurs familles contre tous les risques de la société industrielle.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer son compte Amedon.
Le chômage, c'est un risque au même titre qu'une maladie professionnelle. Ça peut vous arriver sans que vous l'ayez cherché, simplement parce que vous travaillez dans telle entreprise à tel moment. Donc, on s'assure collectivement, aussi bien les salariés que les employeurs. Et l'État participe au financement de l'assurance chômage via la CSG. Il y a deux raisons particulières citées en faveur du contrôle des chômeurs. La première, c'est qu'il permettrait de mieux distribuer l'argent à ceux qui cherchent vraiment du travail et éliminer les fraudeurs, ceux qui profiteraient de l'assurance chômage. En 2019, Muriel Pénicaud, ancienne ministre du Travail, disait, je cite, « La petite minorité de fraudeurs profite d'un système. Même si c'est une toute petite minorité, cela rejaillit négativement sur tous. Il n'y a donc aucune raison que les rares fraudeurs, on les laisse tranquilles. » Fin de citation. Mais alors, dans les faits, existe-t-il une véritable fraude organisée? Regardons les chiffres de plus près. Premièrement, la fraude, c'est-à-dire les gens qui touchent des allocations sans correspondre aux trois critères dont je vous ai parlé plus tôt, elle a représenté 212 millions d'euros en 2019. Ça peut vous paraître beaucoup, mais en fait, ça représente 0,5% du montant total des allocations versées par Pôle emploi. Et ça correspond à 18 368 demandeurs d'emploi sur plus de 5 millions d'inscrits. Pour info, à titre de comparaison, les Pandora Papers ont révélé en octobre dernier une fraude massive dans les paradis fiscaux qui correspond à plus de 10 000 milliards d'euros d'actifs offshore, répartis sur 84 millions de comptes bancaires. Deuxièmement, en moyenne, les demandeurs d'emploi ont des droits ouverts pendant 16 mois et près de la moitié des allocataires reprend une activité 3 mois après le début de l'indemnisation. Cette part est encore plus importante chez les allocataires qui ont une courte durée de droit, 5 mois. 63% d'entre eux reprennent un emploi au bout de 3 mois. Il est important ici de préciser que le montant moyen mensuel de l'allocation chômage plafonne actuellement à 910 euros net par mois selon l'UNEDIC. Pas de quoi vivre tranquille, une vie de pacha. Je me promène dans les beaux quartiers avec le seum qui fait peur aux riches. Et enfin, troisième point. 6 fraudeurs sur 10 ne touchent pas d'allocation chômage, parce qu'ils ont épuisé leurs droits et ils ne touchent plus que l'ASS, l'allocation de solidarité spécifique d'un montant de 490 euros par mois maximum. Ils sont certes fraudeurs, car ils ne remplissent pas les trois critères pour être considérés comme chômeurs, mais ce ne sont pas eux qui causent la ruine de la France.
Tous les travaux sur ces questions-là tentent à montrer qu'il y a plus de non-recours que de gens qui, effectivement, consciemment ou inconsciemment, s'acquitteraient pas de tous leurs devoirs. Et donc, on en revient à ces questions idéologiques qu'on évoquait tout à l'heure. Sans doute que l'enjeu qu'il y a derrière, c'est sans doute de justifier une réforme du marché du travail, de justifier de rendre solvables des emplois non protégés, mal payés, qui jusqu'à présent peuvent avoir un peu plus de mal à trouver preneur. Et donc, du coup, évoquer régulièrement le cancer de l'assistanat, délégitimer. En fait, l'enjeu, c'est de délégitimer le recours à une aide qui n'est pas une aide sociale en plus. C'est vraiment, c'est la solidarité collective, quoi. C'est pas de l'assistanat, c'est de la solidarité collective. Et en fait, l'enjeu majeur, c'est de délégitimer le recours et de fabriquer de la honte.
Le deuxième argument en faveur du contrôle des chômeurs est de taille. C'est qu'il réduirait drastiquement le chômage. Alors oui, logiquement, des personnes qui ne cherchent plus d'emploi, c'est moins de personnes en recherche d'emploi. Mais est-ce qu'il y a de la place pour eux ?
Pourquoi on met la pression sur les chômeurs alors qu'il y a plus de chômeurs que d'offres d'emploi ? En fait, finalement, on pourrait se dire c'est absurde. On a 6,5 millions d'inscrits à Pôle emploi. Alors, tous ne sont pas astreints à chercher un emploi, etc. Mais il y en a 6,5 millions. Il y a, dans les estimations les plus grosses, quelques centaines de milliers d'offres qui ne seraient pas pourvues. En fait, à quoi bon mettre la pression sur les chômeurs ? En fait, soit c'est irrationnel totalement, c'est-à-dire que ça n'a aucun sens. On a 3-4 millions de personnes, on leur met la pression pour se répartir des emplois, il y en a un pour 10 d'entre eux. Soit on se dit que ça a peut-être un sens, et dans ce cas-là, le sens que ça a, c'est de modifier la qualité des emplois sur le marché. C'est de faire en sorte que les gens acceptent des offres d'emploi qu'ils n'auraient pas acceptées en période de plein emploi.
On pourrait se dire qu'au vu de la succession de lois qui se sont attaquées à l'indemnisation, au statut, à la longévité de l'assurance chômage, on se serait en effet rendu compte qu'il y avait bien là un problème structurel au chômage de masse. Et en plus, tout le monde ne subit pas la même pression. Tout le monde n'est pas égal face à cette pression à trouver du travail.
Il y a tout un travail administratif qui est mis en place pour inviter les gens à se réorienter. Et ces réorientations, elles sont évoquées comme nécessaires, comme évidentes, etc. Et ce qui peut paraître surprenant quand on découvre tout ça, c'est le caractère un peu... d'une certaine manière, les notions qui sont mobilisées, c'est le réalisme. Le réalisme du projet de recherche d'emploi. Et donc, on a des gens qu'on va venir titiller parce que leur projet n'est pas réaliste. Et effectivement, on va se permettre, en entretien, de leur dire, il faut se réorienter vers ci, il faut se réorienter vers ça, parce que votre projet, il n'est pas réaliste.
Évidemment, ça peut laisser place à beaucoup d'arbitraire de la part des employés de Pôle emploi. D'autant plus que chacun d'entre eux a des centaines de dossiers à gérer. Et cet arbitraire frappe davantage les personnes les plus précaires, celles qui maîtrisent moins le langage nécessaire pour avoir un projet réaliste, entre guillemets. Rappelez-vous, quand Emmanuel Macron proposait à un jeune homme spécialisé dans le paysagisme de se rendre sur le trottoir d'en face pour trouver du travail dans la restauration.
Si vous êtes prêt et motivé, viens. Dans l'hôtellerie, le café, la restauration, dans le bâtiment, il n'y a pas un endroit où je vais où ils me disent pas qu'ils cherchent des gens. Je traverse la rue, je vous en trouve, ils veulent simplement des gens qui sont prêts à travailler, avec les contraintes du métier.
Aurait-il dit la même chose à un ingénieur titulaire d'un master ? Le problème réside aussi dans la façon dont on envisage le chômage et les chômeurs. Et on le voit dans la manière dont les différents organismes qui gèrent les demandeurs d'emploi ont été réorganisés au fil des années. Le plus significatif, c'est bien sûr la structuration de Pôle emploi. Avant 2008, existait un organisme chargé de l'indemnisation, les ACEDIC. Un organisme chargé de la récolte des offres et de l'accompagnement vers l'emploi, la NPE. Un organisme chargé du contrôle, la DDTEFP. Après 2008, tout cela a fusionné dans Pôle emploi, qui s'occupe aujourd'hui des trois fonctions que je viens de citer. Résultat, les fonctions contrôle et paperasse administrative ont pris la première place.
À l'époque, c'est bien les ACEDIC qui contrôlaient les démarches de recherche d'emploi. Mais ça concernait uniquement les personnes qui bénéficiaient d'une aide au retour à l'emploi. Et ce qui est intéressant, c'est que progressivement, en fait, cette idée de devoir contrôler le comportement des individus qui sont au chômage a un peu percolé dans l'ensemble du secteur, si bien qu'aujourd'hui, même des gens qui bénéficient pas d'une aide au retour à l'emploi font l'objet d'un accompagnement et on scrute leur comportement pour voir si c'est le bon comportement, même lorsqu'ils ne bénéficient pas du secours, d'une aide, d'une allocation, etc. Il y avait vraiment cette idée de, je sais pas comment on pourrait dire, cette idée de discipliner les personnes, qui sont sans emploi pour les rendre productives.
D'ailleurs, le MNCP, une association de défense des chômeurs, propose de couper le lien entre indemnisation et recherche d'emploi.
Le sens de la proposition du MNCP, c'est surtout de dire il ne faut pas que la même personne ait, on va dire, la carotte et le bâton dans la main. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, bien sûr, le fait de fusionner les deux, indemnisation, placement, ça permet théoriquement, alors ça dépend bien sûr aussi des conseillers et des conseillères, hein, parce que Pôle emploi est une institution où les agents ont pas mal de marge Et donc, en fait, d'un conseiller et d'une conseillère à l'autre, il peut avoir des manières très différentes de prendre en charge les publics, de les appeler, de les contacter, de prendre soin d'eux, etc. Mais donc, l'idée là, c'est de se dire que finalement, la personne qui vous oriente dans l'emploi ne va pas avoir la main sur l'argent que vous touchez. C'est-à-dire qu'en gros, si jamais vous n'êtes pas d'accord avec elle ou avec lui, que vous ne suivez pas le diagnostic, vous ne suivez pas les recommandations pour trouver du boulot, l'idée du MNCP, c'est de dire que cette personne ne peut pas tirer sur la case indemnisation et, je le caricature un peu vite, mais vous réduire vos revenus parce que vous n'auriez pas accepté de prendre tel ou tel emploi.
Bon, si vous avez bien suivi, on comprend vite que les revendications de contrôle des chômeurs, c'est plutôt inefficace pour réduire le nombre de fraudeurs et pour réduire le chômage. Par contre, pour Jean-Marie Pillon et Adrien Clouet, ça a un effet bien concret. Discipliner et contrôler les futurs salariés.
À savoir que plus on contraint les demandeuses et demandeurs d'emploi à accepter des formes d'offres dégradées, eh bien, plus on assure aux employeurs la capacité de mettre sur le marché des formes d'emploi dégradées, et plus on opère alors ce qu'on appelle l'armée de réserve dans la sociologie marxiste, plus on opère une force de rappel sur les salariés. C'est-à-dire lorsque vous êtes en emploi et vous savez qu'il y en a 15 derrière qui sont prêts à prendre votre emploi, payer deux fois moins cher, eh bien, en général, les revendications salariales sont un petit peu mises sous cloche.
Pour conclure, la question du contrôle des demandeurs d'emploi relève plus d'une perception déformée de ce qu'est le chômage plutôt que de données économiques réelles. C'est peut-être en arrêtant de considérer l'assurance chômage comme un assistanat plutôt qu'un droit, et en écoutant les principaux concernés, qu'on arriverait à comprendre une réalité qui touche 6 millions de personnes. Je laisse le mot de la fin à Adrien Clouet.
Je pense qu'il faut savoir ce que les chômeurs deviennent, parce que ce sont les meilleurs indicateurs sur les évolutions du marché du travail, et qu'un service public qui sait ce qui se passe sur le marché du travail, eh ben, c'est un service public de l'emploi de qualité. La question qui se pose, c'est à quoi ça sert de leur poser des questions et dans quel cadre est-ce qu'on le fait? Tout à l'heure, vous évoquiez l'éventualité de distinguer les deux. On donne l'allocation et puis on aide les gens à retrouver à l'emploi. L'intérêt d'une telle mesure, c'est aussi de fabriquer un service public, je dirais, bienveillant, où les individus vont pour avoir de l'aide et où les salariés qui y travaillent, les agents qui y travaillent, font leur métier dans un cadre protecteur et dans le cadre duquel ils sont reconnus pour leurs compétences.
Splash est une émission de Nouvelles Écoutes. Elle est présentée et écrite par moi, Emmanuel Martin. Production et réalisation, Marine Roux. Coordination par Mathilde Jeunin. Mixage, Adrien Beccaria à l'arrière-boutique studio.